C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
On devrait tous raconter comme Scheherazade, tu vois, parce qu'elle joue sa tête. Mais nous, on joue pas notre tête.
Bonjour, c'est Charles Cécile, je suis au Festival d'Avignon. Avignon, le plus grand marché de spectacles du monde, on y trouve beaucoup de genres différents, du théâtre, de la musique, de la danse et aussi des conteurs. On y trouve surtout beaucoup d'artistes et beaucoup de compagnies qui cristallisent là finalement les sacrifices et les espoirs de plusieurs années de travail. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer le conteur Pierre Deschamps. Alors, jolie chemise à fleurs, écharpe légère et raffinée, le voici qui arrive.
Tu sors tout juste d'un spectacle, tu as joué quoi là?
Alors on vient de jouer Avant de toucher le ciel pendant toute la durée du Festival Théâtre Enfant à Avignon. Voilà.
Super, et tu es avec une jeune danseuse
qui s'appelle Mathilde Rader. Et donc c'est une proposition, c'est un spectacle dans lequel se mêlent à la fois le conte et la danse. Puisque la danseuse danse et conte, et le conteur conte et essayer de bouger et essayer de danser.
Voilà. Je crois que c'est pas quelque chose qui est récent pour toi, parce que tu avais aussi fait sur le sentier des ours où tu dansais également, non?
Oui, alors non, en fait, je dansais pas, mais pour moi, le geste est quelque chose de très important quand je raconte des histoires. Et à chaque fois, il y a tout un travail sur le geste et au-delà du geste, c'est-à-dire au-delà de ce qui apparaît quand je suis sur scène, il y a tout un travail en amont sur le lâcher prise, en fait. Et le geste, c'est quelque chose qui sort de moi de manière assez inconsciente, en fait, qui n'est pas quelque chose que je travaille, mais quelque chose qui vient petit à petit pour se substituer à la parole ou accompagner mes propos, leur donner plus de densité. Donc pour sur le spectacle qui s'appelle Sur le sentier des ours, j'avais travaillé avec une danseuse pour voir comment petit à petit les personnages de cette histoire pouvaient me posséder, comment je pouvais exprimer dans mon corps la présence des personnages sans que ça soit de manière illustrative, mais quelque chose, ou alors quand c'est illustratif, c'est pleinement assumé puisque c'est des histoires d'ours, donc il y a un moment où la stature de l'ours vient me posséder, si tu veux, en quelque sorte, quoi. Mais il y a d'autres moments où on est vraiment dans un geste qui va évoquer une situation. Et c'est à partir de là que la piste pour Avant de toucher le ciel s'est ouverte. C'est-à-dire que la question qu'il y avait, qui a préexisté à Avant de toucher le ciel, c'est comment faire qu'un geste de conteur, tu vois, un geste qui accompagne ton récit, devienne un geste dansé. Et comment le partager avec une danseuse pour pouvoir le partager avec le public. Voilà, c'était ça l'enjeu global.
Et c'est très réussi. En fait, ce conteur qui danse et cette danseuse qui compte, ce mariage entre un homme d'âge mûr, et puis une jeune danseuse, ouais. Voilà, à peine sortie de l'œuf finalement.
C'est vrai qu'il y a une grande différence.
Très charmant. Ça.
Il était une fois, ça fait longtemps, un vieux village. On l'avait bâti tout au bord d'une très très ancienne forêt. Mais dans le village, il y avait un garçon qui s'ennuyait, toujours assis sur le petit banc juste devant sa maison, à guetter la lisière de la forêt, en espérant que enfin un jour, quelque chose se passerait. Mais en attendant, il s'ennuyait. Oh, je m'ennuie. Un soir, son oncle est venu le voir. Et garçon qui s'ennuie aimait beaucoup son oncle, l'oncle s'assoit sur le petit banc juste à côté de lui et lui a dit « Mais alors, mon garçon, tu t'ennuies toujours ?»« Ah ouais, mon oncle, qu'est-ce que je m'ennuie ?»«
Oh ben, je te comprends, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, qu'est-ce que je m'ennuyais ? Toujours assis sur le petit banc juste devant la maison. Exactement comme toi, mon garçon. À guetter la lisière de la forêt, en espérant que, enfin, un jour, quelque chose se passerait. »
Mais en attendant, je m'ennuyais.
Oh ben, je m'ennuyais comme ça jusqu'au soir où mon oncle est venu me voir. Et pour la première fois, ma...
Mais je pourrais peut-être faire pareil pour toi, mon garçon. Si tu veux plus t'ennuyer, il n'y a qu'une chose à faire. Top là !
Garçon qui s'ennuie, il a levé sa main et il a topé dans la main de son oncle sans regarder ce qu'il faisait. Mais au lieu que ça fasse, ça a fait...
Alors il a regardé où il avait posé sa main.
C'était pas une main d'homme, mais c'était une patte avec des griffes, des poils.
Ah ! Au secours, mon oncle ! Il y a un ours ! Mais n'aie pas peur, mon garçon ! C'est moi, c'est ton oncle. Je me suis transformé en ours. Et regarde-toi maintenant.
Garçon qui s'ennuie, il a regardé ses pieds. Ah ! Il avait plus de pieds. Mais il avait des pattes. Et maintenant, tout son corps se couvre de poils. Ses épaules s'élargissent, son nez pointe en museau et ses dents en crocs.
Garçon qui s'ennuie s'est transformé en garçon ours.
Mais alors, mon garçon, tu t'ennuies toujours ?
Oh, oh, oh non, mon oncle. Oh, c'est drôlement drôle. Mon oncle. Mon oncle. Mais j'ai faim. J'ai comme une faim d'ours qui me serre le ventre.
Alors si t'as faim, mon garçon, il n'y a qu'une chose à faire. Mouah, table !
Les deux ours se lèvent, ils traversent la cour de la ferme, et quand ils ont ouvert la porte de l'étable, quand la vache les a vus, mouah !
Mon oncle, mais c'est la vache de mon père. On peut pas manger la vache de mon père.
Ben, il la nourrit bien. C'est du bio, cette bête-là.
Ils ont sauté sur la vache et ils l'ont mangée. Et l'âne, quand il les a vus, eh, attendez, non, mais je vous reconnais tous les deux. Toi, t'es garçon qui s'ennuie, toi, t'es son oncle, vous vous êtes déguisé en ours, et la vache, vous l'avez pas vraiment mangée, et moi, vous allez pas me manger non plus, c'est juste pour me faire peur, hein.
Il a raison, mon oncle. On peut pas manger l'âne de son père.
Ouais, surtout qu'il travaille pas beaucoup, il est bien gras.
Ils ont sauté sur l'âne, et ils l'ont en mangé. Mais ils ont laissé la porte de l'étable ouverte, et les moutons se sont enfuis partout dans les rues du village.
Et maintenant, mon garçon, le dessert.
Les deux ours courent dans les rues du village, et chaque fois qu'ils attrapent un mouton,
il est mort.
Et le croque.
Seulement voilà, tout ça, ça a fait du bruit.
Les gens sont descendus dans la rue du village. Juste à temps pour voir. Là-bas, regardez, il y a deux ours qui s'enfuient dans la forêt. Ils ont lâché les chiens et pris les fusils. Mais oncle ours est bien malin. Il a tout montré, tout expliqué à son neveu comment faire pour semer la chasse.
C'est pas compliqué, mon garçon. D'abord, on descend dans le ruisseau. On remonte de l'autre côté et on patouille dans la boue. Et on redescend dans le... On remonte de l'autre... Et on patouille dans la... Vite, mon garçon, les voilà, cachons-nous derrière un buisson.
Les chiens sont arrivés les premiers.
Chef, on a perdu la piste.
Jette un caillou par ici, mon garçon.
Chef, il y a un bruit par ici.
En avant, les gars! Et les chiens sont tous partis par ici.
Les chasseurs sont arrivés.
Chef, on a perdu la piste.
Jette un caillou par là, mon garçon.
Chef, il y a un bruit par là.
En avant, les gars!
Et les chasseurs sont tous partis de ce côté-là. Et toute la nuit, jette un caillou par-ci et jette un caillou par...
Là.
Jette un caillou par-ci et jette un caillou par...
Là.
Jette un caillou par-ci et jette un caillou par...
Là.
Oh, quand le petit jour est arrivé,
La chasse est rentrée au village, bien fatiguée.
Oh, alors, mon garçon, tu t'ennuies toujours ?
Oh non, mon oncle. Ah, c'était drôlement drôle. Et...
Mais maintenant, mon oncle, allez-y. Transformez-moi en garçon.
Mais pourquoi ?
Mais mon oncle, parce que je suis un garçon.
Mon oncle, je sens déjà l'odeur du petit bol de chocolat que ma mère a préparé. Bientôt, elle va m'appeler pour l'école. Avec un peu de chance, je pourrai rentrer chez moi, me glisser dans le lit et mes parents se rendront compte de rien. Allez-y, mon oncle, transformez-moi en garçon.
Bah, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas.
Qu'est-ce que vous dites, mon oncle ?
Eh ben, je te dis que je peux pas. À partir de maintenant, tu seras toujours un ours. Mais tu vas voir, la vie des ours est très agréable. Elle est très, 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 très ours. Ouais, ouais, très, très ours.
Mon oncle, je suis un garçon.
Enlevez-moi cette peau, mon oncle. Mais je te dis que je peux pas. Mais non, je suis pas en colère.
Mais pleure pas, mon petit. Je voulais pas te faire de peine. Je voulais juste que tu t'ennuies plus. Je peux rien faire pour toi.
Enfin, moi. Mais peut-être, peut-être, que le roi des ours pourra peut-être faire quelque chose pour toi, mais c'est pas sûr, mon garçon.
Allez, courage. Mais d'abord, il faut passer par notre maison de la forêt. Sinon, tante ours va s'inquiéter.
Je crois que mon histoire de conteur, elle a vraiment commencé dans la toute petite enfance, tu vois. C'est-à-dire que ça a été... moi, ça a démarré le jour où je me suis rendu compte que le Père Noël, c'était pas vrai.
Ah ouais, c'est terrible.
Ouais, parce que je me suis dit, mais alors, y avait un truc, si tu veux, quand j'étais enfant, que je n'aimais pas, c'était être un enfant. Moi, ça me plaisait pas être un enfant. Parce que je voyais les adultes qui pouvaient faire des tas de trucs, et moi, j'étais face à plein d'impossibilités et plein d'incapacités. Donc, j'avais qu'une envie, c'était grandir. Ça m'intéressait pas d'être un enfant. J'en avais marre, si tu veux, qu'on me dise, t'es trop petit, tu comprendras plus tard.
T'as voulu brûler des étapes de dans
complètement.
Ah ouais.
Moi, ça, j'étais pas un enfant très, très heureux. J'avais des parents, mes parents étaient des bonnes personnes qui m'ont élevé et ils sont disparus aujourd'hui, mais que j'ai beaucoup aimé et qui m'ont beaucoup aimé. J'ai pas été un enfant qui a vécu des traumatismes dans son enfance. Mais j'étais pas un enfant très très heureux ni très joyeux parce que ça m'embêtait d'être un enfant. Et le jour où je me suis rendu compte qu'on m'avait menti, je me suis dit, ma mère m'a dit quelque chose du style, je vois que tu n'y crois plus, quoi. Et par défi et peut-être par début de conviction, je lui ai répondu, c'est vrai, je ne crois plus au Père Noël, mais je crois aux fées. Et en fait, je crois que ça a commencé là. Et parce que si tu veux, quand quelques années plus tard, dès que j'ai su lire, vers les 6 ans, je suis tombé sur les Chevaliers de la Table Ronde. Donc je comprenais absolument pas ce que je lisais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de magique dedans. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'épique, quelque chose qui était en train de me soulever, de m'emporter et de m'élever. De m'éduquer, de me faire grandir, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je suis tombé dedans. Je suis entré dans cette forêt avec le sentiment d'une perdition totale et pas envie du tout d'en sortir, tu vois.
Pierre Deschamps et aussi de nos amis les cigales.
Je me rappelle que
pendant longtemps, les gens venaient me voir à la fin, ils me disaient « Vous nous avez redonné une âme d'enfant. » Et moi, qui n'aimais pas être un enfant, tu vois, alors je disais merci, mais ça me gênait. Et puis, un soir, je vais écouter Henri Gougaud. Et toutes les histoires que je racontais, lapsus est joli d'ailleurs, je les connaissais, tu vois. Mais je me suis senti vraiment, je me suis revu calé contre ma mère en train d'écouter une histoire. Je me suis revu avec mon grand-père qui me raconte la guerre de 14. Je me suis revu avec une grande-tante qui racontait des histoires.
Ça t'a un peu réconcilié avec ton enfant, c'était en paix avec ça.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Parce que, si tu veux, le truc. Après, je suis allé voir Henri et je lui ai dit, ben voilà, moi, les gens, ils venaient me voir à la fin, ils me disaient, ouais, vous nous avez renommé une âme d'enfant. Et, ils me disaient, et Henri m'a dit, oui, c'est vrai que c'est un peu. Je lui ai dit, ben oui, mais ce soir, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est pas qu'il me redonne une âme d'enfant, c'est qu'il me réconcilie avec mon enfance. Tu vois ? Il me fait retrouver mon enfance. Et là, je me dis que...
Il te l'a fait regarder différemment.
Oui, et que l'enfant qui est en toi, voilà, tu y accèdes. Tous mes spectacles sur le jeune public sont une réflexion sur le fait de grandir. Qu'est-ce que ça fait de grandir ? Alors, le premier spectacle jeune public que j'ai fait s'appelle Jean des Pois Verts, et c'est l'histoire d'un petit pois qui devient un petit garçon et qui va scolter au géant. C'est le mythe de Tom Pouce, en définitive. Jean des Pois Verts est un avatara de Tom Pouce. Ensuite, il y a eu un autre spectacle qui est plutôt pour les préadolescents, qui s'appelle Métamorphose, où là, la question, c'était... Qu'est-ce que les contes nous apprennent de nos métamorphoses intimes ou spectaculaires ? Et s'adresse justement à un âge où il y a des grands changements qui sont en train de s'opérer dans le corps. Et est-ce que les personnages des contes qui nous précèdent ne vont pas nous indiquer le chemin ? C'était la question qu'on s'était posée. Et puis, je dis « on » parce que je ne suis pas tout seul pour créer mes spectacles. Je travaille avec Jean-Claude Botton, je travaille aussi avec Cathy Sudka. Après, il y a un regard artistique qui a été fait pendant de nombreuses années par Frédéric Fay sur mon travail. Ensuite, pour Avant de toucher le ciel, il y a Muriel Corbel et Jean-Christophe Bleton qui sont des chorégraphes qui ont participé à l'élaboration. Donc à chaque fois, on essaie, selon les productions, de créer une équipe. Et puis après, donc il y a eu un autre spectacle qui s'appelle Fin de loup. Et la question, c'était comment sublimer sa peur, c'est-à-dire comment le fait de passer au-delà de sa peur peut aider à grandir. Et ensuite, il y a eu Sur le sentier des ours, qui est un conte initiatique, c'est-à-dire comment, quand on a le pouvoir d'accomplir ce qu'un enfant ne peut pas accomplir, ça nous pousse vers le futur. Et Avant de toucher le ciel, l'enjeu, c'était de se dire... Jusque-là, j'ai traité des métamorphoses intimes, singulières et universelles, mais par la parole, et aussi par le geste, mais par la parole. Et là, l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps quand on grandit ? De quoi il s'agit dans le tiraillement ? On s'est tous réveillés un jour en se disant, je suis différent des autres, parce que j'ai des doigts très longs, parce que je grandis trop vite, ou parce que je grandis pas assez vite, ou parce que j'ai des changements en moi qui se font, j'ai des poils qui commencent à pousser, il y a des jeux qui ne m'intéressent plus, il y a des choses que je trouve bébés, mais j'ai d'autres capacités, je peux enfin atteindre l'étagère du haut, je peux porter des choses plus lourdes, je peux commencer à m'opposer à mes parents aussi. Donc c'est ça que j'avais envie de décrire et de travailler, mais du point de vue du corps. Et c'est pour ça que le fait de travailler avec une danseuse, des chorégraphes, et de partager le plateau avec une danseuse s'est imposé. Voilà. Mais c'est, tu vois, en fait, c'est toujours une obsession chez moi, ce fait de grandir. Comment
tu as des spectacles également pour un public adulte.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on retrouve cette thématique? Le franchissement,
parce que je pense qu'on n'a jamais fini de grandir, On n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini de se remettre en cause. On n'a jamais fini de recevoir des claques et des caresses. Parce que on avance autant par les caresses que par les claques. Même peut-être mieux. En tout cas, c'est moins douloureux.
Avec un petit peu des deux aussi.
Un peu des deux, voilà. Ouais. Et mes spectacles, mes derniers spectacles pour un public adulte ont à voir avec la féminité, la femme et le courage des femmes. Voilà, il s'agit de ça.
Tout au bout du village, il y a un grand loup qui l'attend. Et le grand loup a soufflé sur la flamme qui d'un coup s'est éteinte. Aussitôt, les loups encerclent le garçon. Franchement, mon garçon, tu crois qu'une simple flamme suffirait à nous faire peur, à nous, les loups? Tu sais, ton oncle ours n'a pas toujours de très très bonnes idées. Justement, le voici. Bonsoir, oncle ours.
Laisse passer le petit. Mais oncle loup a sauté sur oncle ours, qui d'un coup de patte l'a lancé. Aussitôt, il se redresse. Ils sont là, tous les deux vieux ennemis, pour un combat qui va commencer et recommencer encore. Ils tournent l'un autour de l'autre. Qui va attaquer le premier? Oncle loup, oncle ours? Quand on se connaît depuis si longtemps, comment ruser un ennemi? À quel instant pousser son cri de guerre? Ensemble, ils ont bondi l'un sur l'autre. Et dans la nuit, on ne voit que l'éclat des crocs, l'éclat des griffes. On n'entend que les cris de guerre et les cris de douleur. Et de nouveau, ils se séparent. Ils tournent l'un autour de l'autre. Qui va attaquer le premier? Oncle loup? Oncle ours? Qui est le plus expérimenté? À quel instant pousser son cri de guerre quand on se connaît depuis si longtemps? À quel instant? Comment trouver la ruse? C'est oncle loup qui a trouvé la ruse. Il a sauté à la gorge d'oncle ours.
Ah, sauve-toi! Sauve-toi, mon petit! Je pourrai pas le retenir longtemps!
Jamais, mon oncle! Jamais je vous laisserai!
Mais sauve-toi, je te dis! Sauve-toi!
Non, mon oncle! Mon oncle! Ils sont trop nombreux, mon oncle! Mon oncle! Je veux pas partir, mon oncle! Je veux pas vous laisser!
Mais sauve-toi, mon petit! Sauve-toi!
Mon oncle!
Le garçon s'est retourné. Et il s'est enfui, poursuivi par les loups. Alors vite, il les conduit jusque dans la forêt, et là, il se souvient de tout ce que son oncle lui a enseigné. Comment faire pour semer la chasse? Vite, on descend dans le... remonter de l'autre... Mais les loups sont bien plus malins que les chiens. Alors toute la nuit, il recommence. Descendre dans le ruisseau, remonter de l'autre côté, patouiller dans la boue, et jette un caillou par ici et un autre par... toute la nuit. Quand le petit jour est arrivé, il a réussi à semer les loups. Mais il est tout seul.
Mon oncle! Mon oncle!
Vite, il court jusqu'au village. Mon oncle! Mon oncle! Et le village est désert.
Il court dans les rues du village. Il va jusqu'à l'endroit où le combat a eu lieu. Mon oncle!
Et là, dans la poussière, il n'y a plus qu'une petite trace de sang.
Mon oncle!
Personne ne pourra m'empêcher, mon oncle. J'irai jusqu'au bout. Personne ne pourra m'empêcher. Le garçon a posé ses pattes sur le vieux sentier. Et le sentier l'a emporté. Encore un pas. Un autre pas. Encore un pas. Un autre pas. Sur le sentier, il faut s'avancer et laisser sa peur, et laisser sa peur.
on sent chez toi une certaine exigence artistique. Mmh. Peux-tu nous parler de cette exigence artistique? Est-ce que c'est quelque chose qui est, pour le conteur, hein, dans notre domaine, dans ton domaine, pour le conteur, qu'est-ce que l'exigence artistique? Quelles sont les choses que tu t'imposes, toi, Pierre Deschamps?
Ouais. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est la soumission et l'humanité. C'est-à-dire la soumission à une histoire, la soumission à des contes traditionnels, puisque moi je travaille que sur du conte traditionnel, qui, pour moi, si tu veux, le conte traditionnel, c'est quelque chose de sacré, mais qui n'empêche pas, parce que c'est sacré, il est nécessaire de le fracturer aussi. Quand je dis de le fracturer, c'est parce que souvent les contes traditionnels ont été collectés, donc écrits, et on a besoin, nous autres les conteurs, de fracturer la structure de l'écrit pour réaccéder à la structure orale qui a été enchâssée dans une structure écrite.
Enchâssée, encoquillée.
Donc il y a besoin de cette première fracture. Et la deuxième fracture, c'est celle de l'humanité et de l'universalité des histoires. Et si tu veux, moi c'est quelque chose qui ne cesse de me bouleverser. Parce que les histoires, elles disent de quoi nous sommes faits. Dans je ne sais plus quelle pièce de Shakespeare, il y a « nous sommes faits de la matière de nos rêves ». Voilà. Mais nous sommes faits de la matière de nos mythes, de la matière de nos histoires. Quand tu lis Sophocle, quand tu lis Euripide, quand tu lis Sénèque, quand tu lis les Métamorphoses d'Ovide, par exemple, ou l'âme d'or d'Apulée, tu as là un condensé d'humanité en une histoire très courte, très simple. Elle dit de quoi nous sommes faits. C'est pas pour rien que des siècles et des siècles après, Freud s'est servi des mythes pour expliquer comment nous fonctionnons. Donc, si tu veux, il y a quelque chose qui est pour moi, c'est d'abord quelle humanité est contenue dans les histoires. Et à partir du moment où tu saisis un tout petit peu de cette humanité, tu peux la partager avec le public. Il ne s'agit pas de donner une leçon, il ne s'agit pas d'être sentencieux ou grandiloquent, c'est pas, ou docte, si tu veux. C'est pas ça.
De faire partager l'ouverture de la coquille, quoi.
Voilà, exactement, c'est ça. Et c'est vraiment pour ça que moi je raconte des histoires. C'est parce que j'ai un besoin de faire partager ces choses-là qui sont sous nos yeux, qui nous crèvent les yeux, qui me crèvent les yeux, et que je mets des années et des années et des années avant de pouvoir pénétrer, tu vois, et de pouvoir en retirer la moelle et de pouvoir la tenter de la digérer et de la redonner.
Dis donc, on parle de l'exigence artistique, donc, pour le conteur. Donc, tu dis humanité et soumission, hein, c'était un petit peu tes leitmotivs, ouais, dans ton travail. Et l'exigence qu'on pourrait avoir vis-à-vis des salles et lieux importants, mmh, du conte en France. Alors, enfin, pour positiver, qu'est-ce que tu aimerais trouver, toi, plus, ah, davantage, moi, comme accueil,
moi, ah,
comme...
Bah alors, c'est très très simple. Hein. Voilà. Moi, j'aimerais trouver des lieux et des festivals qui aient un véritable projet artistique.
Une ligne, quoi, hein, une envie.
Un éditorial, c'est-à-dire autre chose que... moi, je souhaiterais avoir affaire à des gens qui aient une conscience, tu vois, artistique de ce que leur projet implique. Parce que si tu veux, je trouve qu'il y a des lieux où tu y vas, ça se passe très bien, tu joues, tu repars, mais à la limite, ça pourrait être quelqu'un d'autre.
Ce serait pareil, interchangeable.
Ouais, tu vois, c'est interchangeable. Alors, souvent, les programmations, c'est un petit peu des salades russes, tu vois. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Et quand tu vas dans un lieu où il y a un véritable projet artistique, où c'est toi qu'on prend parce que tu portes un propos... Tu vois, et là aussi la soumission, elle est importante, parce que tu portes un propos, parce que tu as envie de le jouer, de le défendre dans de bonnes conditions, pour faire en sorte que le public que tu respectes puisse partager avec toi, et quand ça s'insère dans un mouvement, dans une synergie, eh ben t'es à ta place. Mais je trouve que dans bien des cas, du moins dans le milieu du conte, après quand tu es programmé sur des salles
qui n'ont pas l'habitude de programmer du conte, là c'est une autre affaire. Mais si on s'en tient au milieu du conte, je trouve que vraiment ce qui manque aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui organisent des événements parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont aussi un coup de cœur, ce qui peut être tout à fait légitime. Mais à mon avis, ça suffit pas. D'autant plus que si tu veux, maintenant, tu as des lieux qui existent depuis 15, enfin des festivals ou des manifestations qui existent depuis 15, 20 ans. C'est qu'on n'est plus dans les premières années où les choses se cherchent, où, tu vois. Mais je trouve que c'est vraiment le truc, moi, qui. C'est-à-dire que les lieux qui ont un projet artistique. Actuellement, on vit des temps difficiles en termes d'économie du spectacle vivant, tu vois, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Quand on discute avec la SACD, ils te disent, il y a littéralement cette année un effondrement des transactions, puisqu'eux, ils sont au courant de ce qui se voit. Donc on est dans une situation de crise du spectacle vivant qui est très importante. On le voit ici à Avignon, où cette année, on a affaire à un festival de programmateurs. Mais le public est quasiment absent. Il y a des gros déficits de billetterie dans plein de salles ici. Parce que les gens n'ont plus les moyens de venir. Voilà. Donc si tu veux, moi je pense que les lieux, les structures qui ont un projet artistique et qui sont capables de le défendre devant les élus, devant leurs subventionneurs, devant les institutions, devant les collectivités territoriales, parce qu'ils ont un projet à défendre, ceux-là, ils vont s'en sortir et c'est là qu'on ira faire nos créations. C'est évident. Alors que si tu veux, ceux qui n'auront pas de projet artistique, parce qu'il n'y a pas d'ossature, ne seront pas capables de défendre devant des élus, devant des décideurs, leur projet. Et voilà. Et je pense qu'il va y avoir, tu vois, très très vite, il va y avoir deux types de manifestations et structures.
Est-ce qu'on peut dire que, en ce qui concerne le conte, tu milites pour le conte, pour sa place, pour sa reconnaissance institutionnelle?
Oui.
Tu es dans ton domaine un militant?
Oui. Ah oui, parce que si tu veux, moi je suis toujours. Il y a un truc. Comment te dire? Il y a des spectacles que je vais voir qui sont proposés par des conteurs. Alors même si le mot conte n'apparaît pas pour tout un tas de raisons.
Ah oui, c'est très très beau. Ah, ça. À Avignon, il y a plein de conteurs.
Voilà, hein, mais le mot conte,
quand ils sont à Avignon, ce sont des gens de théâtre.
Voilà.
Donc ils n'affirment pas. Quoi.
Voilà. Donc si tu veux, il y a et qui
qui font du récit, là aussi pour prendre un terme si tu veux extrêmement générique, qui sont des gens qui ont du talent. Moi je goûte ces spectacles, j'ai beaucoup de plaisir à les voir, je m'en souviens, ce sont des gens qui ont quelque chose à dire, et je me dis que si cette énergie là, si cette passion, si cette faconde, si cette éloquence était mise au service du conte traditionnel,
waouh,
tu vois. Et je pense que c'est juste une question de mode. C'est-à-dire que je pense qu'actuellement, on est effectivement... Là, petit à petit, le récit de vie est en train de pâlir. Tu sais, il y a eu les grandes années là où c'était... Ah ben, si tu faisais pas du récit de vie, c'était d'accord. Là, en ce moment, il y a des nouvelles formes. Tu vois, avec l'interdisciplinarité. Ça. Alors, moi, je procède de ça, mais moi, je fais du conte traditionnel et de la danse. Bon. L'interdisciplinarité. Mm-hmm. Enfin, tu vois, il y a des nouvelles choses là qui sont en train d'arriver là. Mm-hmm. Et puis, moi, je pense que d'ici, je sais pas, 5, 10 ans ou 6 mois ou un an, eh ben, subitement, il va y avoir plein de gens qui vont redécouvrir le conte traditionnel en se disant, mais c'est génial ce truc-là. C'est vraiment super. Ça parle à tout le monde. C'est universel. C'est une parole qui a 36 000 degrés. C'est juste génial, émouvant. Emparons-nous de cette affaire, tu vois. Mais je pense que c'est, comme tout mouvement de mode, quelque chose qui est cyclique. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et...
Pour peu que la discipline soit bien servie, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait cette exigence artistique dont tu viens de parler. Absolument. Et puis, chez les programmateurs, cette exigence dans la programmation. On a vu beaucoup de festivals ces dernières années naître. Ouais. On va en voir vraisemblablement un certain nombre mourir aussi, se terminer, faute de souffle, quoi. Pour les raisons que tu as données.
Oui, pour ces raisons-là. Et puis, moi, je pense qu'après... c'est jamais qu'une question de vouloir effectivement porter des choses qui nous dépassent. Michel Hindenock, il a une très belle phrase, il dit « Compter, c'est dire un rêve plus grand que soi ». Voilà. Et je trouve que c'est très très beau. Bruno de Lassalle, il dit « Le conteur est un sorcier, il fait apparaître des images ». Tu vois ? Et voilà. Et si tu veux, il y a un truc... Moi, je me suis trouvé dans un lieu de diffusion et qui est très connu, que je ne citerai pas, en France. Où on m'a demandé pendant une journée de faire une formation sur qu'est-ce que le conte traditionnel pour les cadres et le personnel de ce lieu.
D'accord.
Et c'était très étonnant parce que ces gens-là vendent et professent et vivent du conte, mais ne savaient pas ce que c'était. Tu vois ? Donc on se retrouve face à des paradoxes comme ça qui sont assez étonnants. Mmh. Assez étonnants.
Alors on va parler un petit peu des arrière-boutiques maintenant. Donc on a parlé des conteurs, qui sont à l'origine finalement des projets artistiques. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la nécessaire structuration des compagnies, de ce que ça peut apporter, hein, parce qu'en fait, on est dans un monde où maintenant, un certain nombre de conteurs parlent préachat, coproduction, résidence, subvention. En quoi cette façon de travailler est-elle un apport pour la discipline ? Est-ce que c'est complètement nécessaire à tes yeux ? Comment tu en es rendu de ce point de vue-là ?
Alors, moi, je pense que c'est... je pense pas d'ailleurs, je suis certain que c'est complètement nécessaire. C'est-à-dire que se structurer en compagnie, c'est quelque part faire le projet que tes spectacles vont tourner. C'est aussi bête que ça.
Sur ce pari-là, quoi.
Oui, sur ce pari-là. Alors, soit tu as un nom, et effectivement, quand tu vas faire une création, ta création, elle va tourner parce que tu as un nom. Soit tu as pas forcément un nom, mais... parce que tu es structuré en compagnie, parce que tu as des subventionneurs, parce que tu as des coproducteurs, ça veut dire que tu vas avoir des préachats, ça veut dire que ou une préprogrammation, ça veut dire qu'entre le moment où ton spectacle sort et l'année qui vient, enfin si tu veux, sur, prenons le cas d'Avant de toucher le ciel, il est sorti l'année dernière au mois de juillet, on savait au moment où il sortait qu'on avait 60 représentations. Voilà. Donc on savait que notre spectacle allait vivre pendant un an.
Avec ça encourage.
Ah ouais, mais si tu veux, c'est ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui créent des choses dans leur cuisine, et puis après, ben, ça tourne ou ça tourne pas. Tu vois? C'est pas comme ça que ça se... Enfin, moi, je pense que c'est vraiment faire le pari, et c'est donner une chance à sa création, et c'est donner une chance à une carrière d'artiste. Quand j'entends par carrière, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir une certaine exigence, tu vois, on parlait d'exigence artistique, et des projets ambitieux aussi, des projets atypiques qui vont nécessiter des moyens. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas eu tous les moyens que j'ai eu pour avant de toucher le ciel, on n'aurait jamais, on serait jamais arrivé au bout de ce projet. Tu vois, il y a eu une douzaine de résidences, il y a eu 9 coproductions, il y a eu des subventions de la DRAC, de la région, de la ville de Brive et du département de la Corrèze. Si on n'avait pas eu tout cet environnement, il y a eu une administratrice qui a administré cette création-là. On n'aurait jamais pu se payer des regards extérieurs. Tu vois, on n'aurait jamais pu faire venir un chorégraphe. On n'aurait jamais pu faire travailler une chorégraphe encore et encore. On n'aurait jamais pu, si tu veux, on aurait présenté une forme qui n'aurait pas été, non pas aboutie, parce que une fois que c'est abouti, on arrête de tourner un spectacle, mais on n'aurait jamais pu avoir un niveau d'exigence comme ça.
Et voilà. Puis de franchir toutes les difficultés qu'on peut avoir lors d'une création, des changements de personnes qui bossent, etc. Ça, on peut les vaincre
absolument.
Par cette force.
Alors moi, j'en suis sûr, parce que t'es pas tout seul, voilà, t'es en équipe, comme tu viens de le dire. Et puis ensuite, je crois que ce qui retient beaucoup d'artistes, beaucoup de conteurs en l'occurrence, c'est de se dire, si je mets le doigt dans une coproduction ou dans une subvention, dans une subvention ou dans un conventionnement, je vais être inféodé à la structure qui me subventionne, qui me coproduit ou qui me... Et moi qui fonctionne comme ça depuis des années, je peux te dire que jamais, que ce soit la DRAC, la région, le département ou un des nombreux coproducteurs que j'ai eu n'a eu le moindre mot sur le contenu
artistique,
mais a accompagné le projet artistique. Alors là aussi, si tu veux, ça veut dire que à partir du moment où tu ne considères pas les gens que comme des bailleurs de fonds, tu vois, mais comme des compagnons de route, des partenaires avec qui tu vas travailler. Et à qui tu vas demander, par contre, leur regard d'expert sur le travail en chantier, sur le travail en cours, et ben là, si tu veux, t'accèdes à un niveau de confiance qui fait que, ben, après, c'est évident qu'ils vont, programmer ton spectacle. Et en plus, comme on est dans le domaine du jeune public, ben, ça va être 10, 15 représentations. T'as 9 coproducteurs, tu multiplies par 9 par 10, ça fait 90 représentations. Tu vois? Donc c'est aussi cette force-là, elle est pas innée, ça tombe pas dessus comme ça, tu vois. Si tu vas pas toi faire la démarche et si t'as pas un minimum de connaissances de la façon dont fonctionnent les collectivités territoriales, les structures, le ministère, les communautés de communes, etc. Si t'as pas un minimum de connaissances de ça et des territoires et de la façon dont fonctionnent les territoires. Bah effectivement, bon, mais bon, bah tout s'apprend, quoi, tu vois, tout s'apprend vraiment. Mais ça me paraît, moi, être quelque chose de complètement indispensable. Voilà.
Je suis toujours à Avignon avec le conteur Pierre Deschamps.
Mon oncle, mais je suis toujours un ours.
Ah ben ouais. Ah, je me souviens quand j'étais jeune, qu'est-ce que je m'ennuyais là, comme toi, mon garçon. Et puis un soir, mon oncle est venu me voir et m'a transformé en ours pour la première fois. Le sentier que t'as fait, mon gars, je l'ai fait quand j'avais ton âge. Maintenant, regarde bien.
Oncle ours passe sa grosse patte à travers le rideau des arbres. Quand elle entre dans la lumière du village, elle se change en main d'homme. Main, patte. Patte, main. Main, patte.
Maintenant, mon garçon, regarde.
Oncle ours traverse la lisière, et quand il arrive de l'autre côté dans la lumière du village, il s'est changé en homme. Et quand il rentre dans la vieille forêt, il redevient un ours.
Moi, à ton tour, mon garçon.
Le garçon tend sa patte à travers le rideau des arbres.
Elle entre dans la lumière du village et se change en main. Main, patte, patte, main. Maintenant, mon oncle, j'y vais pour de bon. Le garçon traverse le rideau des arbres. Et quand il arrive de l'autre côté, dans la lumière de son village, il est redevenu un garçon, mais un garçon qui ne s'ennuie plus. Il a bien remercié son oncle, et le temps a passé, bien plus vite qu'il ne le pensait. Il est devenu un jeune homme. Et souvent, avec son oncle, ils allaient boire un verre à l'auberge du village où il y avait un bûcheron qui racontait une histoire que personne ne voulait croire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à force de grandir, il est devenu un homme. Et un peu plus tard, il est devenu oncle. Il a eu un neveu, un petit garçon, qui passait tout son temps, assis sur le petit banc juste devant la maison, à guetter la lisière de la forêt. Alors un soir, celui que autrefois on appelait « garçon qui s'ennuie », celui-là est allé voir son neveu et lui a dit
« Alors, mon garçon, tu t'ennuies toujours ? Eh ben, si tu veux plus t'ennuyer, il n'y a qu'une chose à faire.
Top là !»
J'aimerais un petit peu que tu nous parles de tes périodes de création, à toi, quand tu, quand tu es dans ta,
dans la matière.
Dans la matière, et que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'aide à, est-ce que par exemple, tu vois, j'interviewais Ziad Darwish il n'y a pas très longtemps, qui me disait que lui, c'était un adepte de la marche à pied, alors il fait des kilomètres, et il imagine ses personnages comme ça, voilà, il en définit l'entier caractère, et puis, alors, donne-nous un petit peu tes deux ou trois petits secrets, ou alors, même qu'un, de fabrication.
Ben, voilà. En fait, pour moi, le plus long, le plus difficile, le plus complexe, c'est la recherche des histoires. Voilà. Ça, c'est vraiment une sorte de... Je m'engloutis là-dedans, je m'engourdis là-dedans. Et là, je passe énormément de temps à chercher des contes qui vont me parler, qui vont servir mes obsessions, qui vont... voilà, et là, ça, c'est l'énorme chantier. Alors bon, moi, il se trouve que j'ai une formation de bibliothécaire, donc... J'ai une bibliothèque assez importante et puis j'ai appris à manier ces outils que sont les livres. J'ai appris à chercher, à dégoter, à trouver quoi. Ça c'est la période la plus longue. Après la période d'écriture, c'est-à-dire la période où je mets en route l'histoire, où je commence à l'imaginer, où je commence à la travailler. C'est une période qui est assez courte. Et la voilà, c'est une phase qui est très 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 courte. Ça peut être réglé en quelques heures, quelques jours. Très 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 rapidement. Et après, parce que je travaille en équipe,
eh bien, je mets ces histoires-là et ma façon de les raconter, bien sûr.
Autour de la table.
Pas de les interpréter, mais de les raconter devant mes spring partners, tu sais, comme à la boxe, quoi. D'accord. Avec cette envie qu'ils me disent, bon, écoute, c'est super, hein, voilà, c'est parfait, on va aller boire l'apéro, c'est génial. Mais ça ne se passe jamais comme ça. C'est toujours, ouais, c'est vachement bien, mais...
Ça bataille un peu, il faut que les gens se l'approprient, quoi.
Oh là là, ça bataille dur, ça bataille très très ferme. Ça bataille ferme, mais avec Jean-Claude, tu vois, qui est un ami et qui connaît tellement bien mon univers, qui me voit tellement arriver, quoi, tu vois. On arrive à un niveau de confiance tel que c'est même plus la peine de parler maintenant. Il suffit que je me mette devant lui et que j'entonne une histoire et je sais tout de suite si c'est la bonne ou la mauvaise. Tu vois, je dis non, ouais, c'est bon, allez, celle-là.
C'est une vieille amitié avec Jean-Claude Breton.
Ah, oui, on a travaillé sur beaucoup de spectacles. Ouais. Ça fait des années que Jean-Claude co-écrit mes spectacles. Et si tu veux, moi j'adore sa façon de raconter et j'ai beaucoup d'affection pour l'homme qu'il est. Et pour moi, travailler avec Jean-Claude, c'est une garantie d'humanité. Parce que je sais que si à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas... qui est de l'ordre de la raideur, tu vois, qui est de l'ordre de voilà, on sort de l'humain et de l'universel, hop.
Il est sûr de tomber dessus.
Il a l'œil, quoi. Il a l'œil. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois, en fait, il y a vraiment trois phases. Il y a la recherche, ensuite l'écriture, appelons ça l'écriture. Moi, je passe pas par l'écrit, mais la rêverie, on va dire. Tu vois, une fois, je bossais avec Michel Hindenock, ça venait pas, quoi. Il m'a dit, va faire la sieste. Hein, et puis rêve, puis tu verras bien, quoi. Mais calme-toi. ensuite, donc la mise au feu, hein, tu sais, le côté un peu alchimique de l'affaire, hein, prendre la pierre, la chauffer pour en extraire le précieux minerai, c'est-à-dire être se tarabuster un peu, se confronter à d'autres. Et puis après, il faut essayer. Alors, faut essayer devant. Un public qu'on choisit.
Tu réunis des amis.
Voilà. Alors quand on est non, parce que ça c'est le pire du pire. Tu sais, raconter devant les amis ou la famille, c'est le pire du pire. Mais
une école.
Quand c'est pour le jeune public, eh bien, au fur et à mesure du travail, on montre ce qu'on a de près aux enfants d'une classe. On les invite à réagir. Et on a un secrétaire de séance qui est une personne de la production qui note absolument tout ce qui se passe. On fait ça les matins, les après-midi, on travaille avec le secrétaire de séance qui nous fait un retour et ensuite on réajuste ou pas. On fait des choix. Voilà, tout est question de choix. Petit, et quand c'est avec des adultes, le coproducteur réunit un public et on fait on essaie et on voit ce qui se passe. On discute après avec les gens. Beaucoup plus difficile avec les adultes, mais là, encore une fois, comme avec Jean-Claude, la simple confrontation à la scène, à l'espace scénique, et quand je parle de l'espace scénique, j'y inclus le public, hein, l'espace, si tu veux, au lieu, quoi.
Ouais.
Faudrait plus juste de dire au lieu, fait que de cette confrontation, il y a un choc qui se crée, qui se fait. Et qui permet vraiment de voir petit à petit.
C'est là qu'en fait les choses se créent.
Oui,
vraiment.
Moi je crois. Ouais, ouais,
c'est entre l'artiste et le public, c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau qui.
Tu commences à voir petit à petit quelque chose qui est en train de se former. C'est encore à l'étape de fumée, tu vois, d'une fumée, d'un fantôme, d'un rêve. Mais petit à petit, tu commences à voir qu'il y a des choses. Qui sont pas les choses qui brillent, parce que le beau n'est pas forcément le vrai, et la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, mais tu vois qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Hein. Et puis, tu as le discernement du public, tu as le discernement des enfants qui te permettent de voir où tu vas avancer. Quoi. Ouais.
Alors autre chose peut-être, et puis on va pas tarder à se quitter maintenant, si des jeunes conteurs qui commenceraient à bosser là, un conseil d'un conteur qui a un peu d'expérience, même pas mal comme toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
Ouais, travailler sur le contrat visionnel, tu vois.
C'est de l'or, quoi. Voilà. Travailler sur les tragédies, travailler sur les mythes, travailler sur les métamorphoses d'Ovide, travailler Sophocle. Je me souviens d'une conférence de Jean-Pierre Vernon sur l'Odyssée, grand spécialiste de l'Odyssée, et où il dit « Les héros ont choisi la vie brève ». C'est-à-dire que Ulysse est roi d'Ithaque, pourrait vivre son âge entouré enfin, quand tu connais les îles de la mer Égée, tu vois, de toutes les îles de la mer Égée, Ithaque est la plus belle, tremblant sur son rocher. Tu te dis, voilà, tu peux vivre dans le bonheur, là où tout n'est que luxe, calme et volupté, tu vois, enfin, tu peux vivre là-dedans.
Tu peux aussi choisir un peu la confrontation.
Donc tu vas avoir une vie longue, mais inexistante dans la mémoire des hommes. Et c'est ça, et c'est comme ça que Ulysse arrive à convaincre Achille, en lui disant, hey, tu peux vivre dans le bonheur ou la félicité, mais personne ne se souviendra de toi. Alors que si tu vas combattre à Troie, tu mourras peut-être, mais tu auras une vie brève, mais éternelle dans la mémoire des hommes. Et la preuve...
C'est l'éthique samouraï, hein, on est très près aussi
c'est pareil, tu vois. Ouais. Et quand Achille meurt et qu'on brûle ses cendres, Ovide écrit « Et du grand Achille, il ne resta qu'un peu de ce je ne sais quoi, à peine capable de remplir une petite urne. » Donc tu vois, de son corps, il ne reste rien. Mais de la renommée d'Achille... Ah ouais, attends.
Pierre Deschamps, parmi les cigales, voilà, ouais. Fin d'après-midi, à Avignon.
Belle musique, hein. Belle musique.
Un petit peu entêtante, hein.
Ouais, un peu.
Pierre Deschamps, merci beaucoup.
Merci.
À propos de musique, vous avez écouté La Belle Vie. Avec Pascal Vandenbuck au flûte, Jacques Julien à l'accordéon, Daniel Givonne à la guitare, Simon Marie à la basse et Benoît Fauvet à la batterie. L'orchestre de Louis XIII, de Jordi Savall, et également de l'album Duo Hartance avec Basile Brémaud et Hervé Capel. Encore un grand merci à Anne de Kermarec pour tout le montage nécessaire pour cette belle émission et à très bientôt. Au revoir.
C'est pas pour dire, était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.
Juste une chose avant que vous repartiez, une dernière chose. Surtout, faites de beaux rêves !